Vous écoutez un article de l'Informateur judiciaire.
Nantes-Saint-Nazaire-Port aux avant-postes de la transition. Pour conserver son attractivité face aux défis de la transition écologique, Nantes-Saint-Nazaire-Port a amorcé un changement de cap profond. En réponse à la feuille de route de l'État sur la souveraineté industrielle et énergétique, il bâtit un nouveau modèle économique autour de la décarbonation, ce qui l'amène à développer de nouveaux projets tout en poussant les industriels déjà présents à faire évoluer leurs activités. Par Nicolas Leport. Alors qu'en 2024, 70% du trafic de Nantes-Saint-Nazaire-Port était encore lié aux énergies fossiles, Jean-Rémy Villageois, son directeur, l'assure.
La transition du port est bel et bien engagée et ses activités ont déjà commencé à se transformer.
Si cela a été impulsé au niveau national et européen, le rôle du port est d'accompagner cette politique, mais aussi nos clients historiques qui se décarbonent, ainsi que les futurs partenaires qui viendront s'y installer, poursuit-il.
C'est aussi de notre responsabilité vis-à-vis des 28 000 emplois présents sur le domaine portuaire.
Symbole que cette transition est déjà en train de s'opérer, la zone industrialo-portuaire de Saint-Nazaire a été désignée l'an passé lauréate de l'appel à projet ZIBAC, zone industrielle bas carbone, lancé par l'ADEME dans le cadre du programme France 2030. Avec la disparition annoncée des trafics fossiles, le port n'a en effet pas d'autre choix que de s'adapter. « Il nous faut même anticiper », martèle son directeur.
Les enjeux sont considérables et le sujet complexe, car irréversible. C'est pourquoi aujourd'hui, la quasi-totalité des opérations actuellement menées sur le port s'inscrivent dans le cadre du plan de décarbonation.
Ce dernier s'articule autour de deux axes, dont un premier à court terme.
Nous avons d'une part nos industriels qui décarbonent leurs infrastructures et leurs activités.
Poursuit Jean-Rémy Villageois.
C'est le cas de Total avec son projet Horizon qui a fait évoluer son process de raffinage pour produire du fioul à basse teneur en soufre. L'installation est réalisée et sa mise en service interviendra dans les mois qui viennent.
Pour rappel, ce projet représente un investissement de 400 millions d'euros. Il vise à améliorer la compétitivité de la raffinerie de Donges via la création de deux nouvelles unités de fabrication. La première de désulfuration pour produire des carburants conformes aux nouvelles réglementations européennes, la seconde de production d'hydrogène. Autre exemple, le terminal LNG du port, qui reçoit du gaz naturel sous forme liquéfiée.
Il va également décarboner l'ensemble de son processus dans le cadre d'un investissement de 200 millions d'euros qui a obtenu son accord final de financement fin décembre.
Confirme le directeur du port. Un projet qui devrait également voir le jour d'ici 2 ans maximum. De l'hydrogène vert pour alimenter 2 usines d'e-carburant. Le second axe du plan de décarbonation s'appuie sur l'arrivée de nouvelles technologies au sein du domaine portuaire. C'est le cas de plusieurs projets misant sur de la production d'hydrogène vert qui verront le jour à moyen et long terme. Ils constitueront de véritables relais de croissance pour le port, affirme son directeur. C'est notamment le cas de GoCO2 qui devrait alimenter 2 usines d'e-carburant, Take Cair, qui produira du e-kérosène pour l'aviation, et Green Coast, du e-méthanol pour le transport maritime. Pour rappel, GoCO2 consiste à capter le CO2 issu des usines des Pays de la Loire, notamment des cimenteries, pour l'acheminer par canalisation jusqu'au terminal d'export maritime de Saint-Nazaire. Il sera ensuite exporté par bateau pour être enfoui sous la mer du Nord. Ce projet, qui vient d'être mis en débat public, est porté par les cimentiers Lafarge et Heidelberg, le spécialiste belge de la chaux lauiste, ainsi que les filiales d'Engie Natran, anciennement GRT Gaz, et LNG. Représentant un investissement de 1,7 milliard d'euros pour bâtir le réseau d'environ 330 km de canalisation, GoCO2 bénéficie du soutien de la région et du port pour une mise en service prévue à horizon 2030. Concernant Take Cair, la période de concertation du projet porté par Hynamix s'est achevée le 9 mars dernier sans opposition notable, si ce n'est d'apporter des précisions, notamment quant à l'impact environnemental et la capacité du territoire à accueillir un flux de nouveaux salariés. La suite se précisera le 9 juin, date à laquelle la filiale d'EDF répondra aux recommandations formulées par les garants de la Commission nationale du débat public, CNDP.
On entrera ensuite dans une période de concertation continue, où l'on va poursuivre le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes.
Annonce Arnaud Souillet, responsable territorial de Hynamix.
Avec à terme, l'objectif de produire du kérosène de synthèse sans énergie fossile à proximité directe de la raffinerie Total de Donges. Un moyen de réduire par 5 les émissions de carbone tout en ayant la possibilité de l'utiliser directement dans les avions actuels.
Nécessitant un investissement d'environ 850 millions d'euros, TechKair évitera chaque année d'émettre plus de 130 000 tonnes de CO2, ainsi que la création de 100 emplois directs et 150 indirects. Et si tout se déroule comme prévu, l'unité de production serait opérationnelle dès 2030, annonce-t-il. Green Coast a lui pour objectif de produire du biocarburant à partir d'hydrogène vert grâce à deux usines interconnectées. D'un côté celle de Leaf, entreprise nantaise de 200 collaborateurs qui compte y bâtir une unité capable de produire 85 tonnes d'hydrogène vert par jour. Et de l'autre, Elise Energy, 70 collaborateurs, qui fabriquerait 150 000 tonnes d'iméthanol par an en boraqué en assemblant des molécules d'hydrogène vert à du dioxyde de carbone.
Ce carburant durable constituera une solution bas carbone locale pour les acteurs du transport maritime.
Précise Pascal Pénicaud, président d'Elise Energy.
Il permettra de réduire drastiquement les émissions des navires, tout en œuvrant à la vitalité industrielle du territoire.
Des propos complétés par Mathieu Guesnet, fondateur de Leaf.
Il est urgent de mettre en place des solutions plus propres et sûres pour décarboner les usages que nous ne pourrons pas supprimer. Le e-méthanol en fait partie et Green Coast constitue donc un projet porteur d'espoir.
1 milliard d'euros à investir pour le projet Green Coast. Cette synergie a d'ailleurs amené les deux acteurs à signer un accord pour étudier la faisabilité du projet.
Ces premières conclusions sont en cours de finalisation et sa restitution publique interviendra à l'été 2025.
Précise Maud Ogeaï, directrice commerciale France de Leaf.
L'étape suivante sera la concertation, le montage des dossiers, le permis de construire puis l'autorisation d'exploitation.
Pour la construction des deux usines, l'investissement est colossal, 1 milliard d'euros pour une mise en service dès 2030. Dernière brique de ce plan de décarbonation, le développement de la filière des énergies renouvelables et notamment EOL, la future plateforme d'assemblage XXL pour l'éolien offshore. Concrètement, il s'agit d'une base d'intégration d'éoliennes d'une puissance de 20 à 25 MW, qui disposera de plus de 700 mètres de quai, capable d'accueillir des aérogénérateurs de plus de 300 mètres de haut.
Il faut voir EOL comme un développement de la filière éolienne à l'échelle industrielle.
Analyse Jean-Rémy Villageois.
Là encore, c'est un formidable levier de croissance pour le port, qui s'appuie sur des acquis puisqu'il a déjà développé une forte expertise dans le déploiement des parcs éoliens marins. D'abord au large de Guérande et maintenant sur l'île d'Yeu et Noirmoutier, où la mise en service se concrétisera fin 2025. Devenir la principale base de l'éolien flottant sur la façade atlantique.
L'étape suivante consistera pour le port à se spécialiser dans l'éolien flottant.
Ces parcs seront synonymes d'investissements très importants et demanderont une assise industrielle élargie, réunissant des acteurs locaux comme Neopolia, les chantiers de l'Atlantique et aussi tous les process de manutention portuaire.
Ajoute le directeur du port. Pour ce qui est du financement des halls, environ 235 millions d'euros achetés, nous souhaitons le finaliser avant la fin de l'année pour être en mesure d'engager le chantier fin 2026, poursuit le président du directoire du port. Et si sa mise en service est envisagée pour 2031, l'objectif est que Saint-Nazaire devienne la principale base de déploiement de l'éolien flottant sur la façade atlantique. Au-delà des investissements nécessaires pour concrétiser ces projets, le port doit également moderniser ses infrastructures, pontons, plateformes logistiques, remblais.
Nous allons nous focaliser sur la préparation des plateformes, notamment les autorisations liées à la loi sur l'eau et la viabilisation de parcelles clés en main.
Détaille Jean-Rémy Villageois.
Ce qui va effectivement nécessiter des investissements très importants, notamment sur les remblais.
Bien évidemment, le port ne sera pas en mesure de supporter seul ces investissements.
Il y a une partie financée sur fonds propres, mais la plupart, amortis sur 60 ou 70 ans, bénéficieront de financements publics.
Confirme-t-il. Pour atteindre l'objectif de la démarche Loire-Estuaire décarbonation de neutralité carbone à horizon 2050, l'enjeu principal du port consiste à anticiper les besoins de demain. C'est pourquoi le port bâtit son nouveau modèle économique autour de briques à court, moyen et long terme.
La transition ne se fera pas dans le cadre d'un processus continu,
confirme Jean-Rémy Villageois.
Elle va se poursuivre de manière brutale, avec des industries qui vont disparaître soudainement. D'où l'importance d'anticiper, pour nous permettre d'amortir les imprévus.
Le foncier, principal atout du port, Parmi les différents atouts dont dispose Nantes-Saint-Nazaire Port, le principal repose sur le foncier.
Nous avons environ 200 hectares disponibles, avec quelques parcelles de grande taille, 20 à 30 hectares.
Se félicite son directeur.
C'est un véritable plus, à condition de réussir à les rendre disponibles dans des délais courts et en s'appuyant sur un processus fiable, capable de répondre aux attentes des industriels, mais aussi aux enjeux de biodiversité, notamment dans les zones humides.
L'agence de développement économique Nantes-Saint-Nazaire Développement ne s'y est pas trompée et a flairé ce potentiel foncier ainsi que le virage pris par le port pour y attirer de nouveaux acteurs.
Nous menons avec le port une démarche partenariale avec des cibles communes de prospection, à savoir des entreprises qui ne sont pas installées sur le territoire et qui viendraient compléter le maillage territorial sur certaines chaînes de valeur liées à la décarbonation maritime telles que la propulsion vélique, la production de biocarburants ou d'énergie.
Confirme Antoine Adam, responsable de l'équipe développement de l'agence.
L'idée est effectivement de valoriser le foncier portuaire, puisque sur le territoire de Nantes-Saint-Nazaire, il y en a de moins en moins. C'est particulièrement les cas des espaces disponibles en bord à quai, situés à proximité directe de l'estuaire, de l'activité portuaire et de toutes les routes maritimes. Ce type de parcelle intéresse de nombreux porteurs de projets.
Pour communiquer sur le nouveau positionnement du port autour de la décarbonation, Nantes-Saint-Nazaire Développement compte s'appuyer sur Wind for Goods, un événement dédié au transport maritime à la voile qu'elle co-organise avec le port les 19 et 20 juin à Saint-Nazaire. Nous y rencontrons de nombreux acteurs européens et français qui nous semblent intéressants pour le territoire. Ils travaillent sur un sujet qui pourrait parfaitement s'insérer dans l'écosystème local avec de nouveaux projets d'usines. Ces entreprises, nous essayons de les attirer sur le territoire, pas uniquement pour Wind for Goods, mais aussi pour leur faire découvrir sa richesse, l'ensemble de l'offre de services portuaires ainsi que l'écosystème global. Cela va des clusters aux acteurs du financement, en passant par les entreprises sous-traitantes, sans oublier les institutionnels. S'il est aujourd'hui impossible de déterminer de quoi sera constitué le trafic de Nantes-Saint-Nazaire Port demain, la seule chose que nous pouvons orienter, c'est l'implantation d'industriels, conclut Jean-Rémy Villageois.
Le trafic viendra ensuite naturellement soutenir ces développements. Donc, à nous de nous assurer de la pérennité de notre modèle économique en fonction des évolutions du trafic. Car notre ambition est bien d'être le port aux avant-postes de la transition énergétique française. C'est quasiment une question de survie pour notre implantation. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous adapter à la nouvelle donne, ne serait-ce que pour l'écosystème nantais et nazérien qui s'est bâti autour du port.